C'est à moi? Je peux y aller. Alors bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier Pasteur Kenny de m'accueillir ici. Ça a beaucoup, beaucoup de sens pour moi. C'est la première fois que je parle de ma vie de cette façon. C'est comme ça que ça a été conduit. Et puis, merci la louange, c'était très chouette. Et merci surtout, c'est la première fois que je prie en italien avant un culte. Enfin, qu'on prie pour moi en italien, parce qu'en fait, la première langue dans laquelle j'ai prié, c'était italien. Voilà. Alors, ça prend beaucoup de sens. C'est comme ça que je lance?
Non,
c'est un qui doit lancer. Avec la musique.
Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
Merci. Alors cette chanson, apparemment tout le monde la connaît. Et puis dernièrement, ça fait un tube, là je l'entends partout. Et puis ça tombe aussi dans une phase de ma vie où ça prend beaucoup de sens, parce qu'en fait, vous savez peut-être pas, cette chanson elle est très vieille. C'est la chanson des partisans. Et c'était quand j'étais petite, il y avait des grandes réunions de famille, et toute la famille, et puis comme il n'y avait pas le karaoké et tout, tout le monde chantait. Et ça, c'était la chanson que lançait mon papa. Ses deux frères étaient partisans. Et lui, c'est celui à qui on mettait le petit, à qui on mettait dans les poches et dans les plis des pantalons de la nourriture pour aller apporter à ses frères. Alors, quand je cherchais une chanson, Kenny m'a dit, est-ce que peut-être une chanson? Je ne voyais pas trop. Mais tout à coup, je me suis souvenue, j'ai dit, mais ça prend tellement de sens. Et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui se lève un matin et qui trouve son pays qui est envahi. Et puis, qui part rejoindre des partisans. C'est juste, hein? Voilà. Et en fait, je me dis, mais... Voilà, un matin, je me suis réveillée aussi, des matins comme ça, et on se dit dans nos vies, on se sent envahi tout d'un coup. Alors, moi aujourd'hui, je m'appelle Milvia Caro, je suis l'épouse d'Hervé, je suis maman de 3 enfants, Samuel, Sandra, Noémie, et je suis grand-maman de 2 petits amours, Nathan, 14 mois, et son cousin Simon, 10 mois. Alors, voilà, après une formation d'employé de commerce, j'ai pris mon temps pour élever mes enfants, tout en donnant c'était l'époque Jane Fonda, Véronique et Davina. Donc, je me suis lancée à fond là-dedans, je me suis formée en fitness, et j'ai une petite salle de fitness jusqu'en 2013. Mon mari est entrepreneur, donc il a repris l'entreprise de son père et de son grand-père. Actuellement, il a transmis son entreprise de construction, on entame tous les deux une pré-retraite. Alors, des fois, quand je n'aime pas trop quand je dis retraite, ça fait un peu gros mot pour lui. Mais voilà, donc on a plus de temps aussi pour s'organiser et à passer ensemble. Alors, vous avez Murassière, pas très loin. Eh bien, moi, je viens d'un autre Murat, c'est Murat Colombé, dans le Chablais, près de Monté. Alors, on m'a dit, tu vises, je vise et je... là-bas, je dois viser, hein? Hop! Ah! Un petit coup. Ah, ben voilà. Voilà. Alors, mes origines. Alors, en fait, Caro, c'est mon nom d'alliance, vous avez bien compris, hein? Mon nom de jeune fille, c'est Andréosée. Ça vous dit peut-être pas trop d'où ça vient non plus, mais en fait, je suis d'origine italienne par mes deux parents. Maman est arrivée la première en Suisse en 52. Elle est venue rejoindre ses sœurs plus âgées qui étaient déjà à Monté. Elle vient de Bergame, à 50 km de Milan. Papa, lui, est arrivé en 56, il est arrivé à Sambrancher. Il venait de San Remo, sur la côte d'Azur. Papa est engagé pour travailler sur la route du Val d'Illier. Du coup, ils se sont retrouvés avec maman parce qu'ils se connaissaient déjà en Italie, en fait. C'est étonnant, hein? Ils se sont retrouvés, se sont mariés, puis en avril 59, donc calculez pas, ça fait 60 ans bientôt, c'est moi qui suis arrivée à l'hôpital de Monté. Alors, on était catholiques par tradition, mais on n'était pas, pas spécialement pratiquant. Ça, c'est des fois, j'avais pas envie d'aller à la messe, je rouspétais un petit peu. Ben, maman, elle m'obligeait pas à aller forcément à la messe. Papa, il a toujours dit qu'il croyait pas, mais moi, je l'ai jamais cru. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui montrait qu'il y avait quand même de la foi. En fait, je suis une seconda de secundo, comme on dit. Et c'est ça sur ça que mon témoignage va porter. Surtout comment Dieu m'a restaurée dans mon identité. En fait, le terme secondo et seconda, c'est un terme qu'on a sorti, il me semble, assez récemment. Je ne l'ai pas trop entendu avant. C'est utilisé pour se référer aux enfants immigrants de la deuxième génération. Hein, de ceux que les parents sont arrivés. Puis ça inclut, alors des fois oui, des fois non. Ça inclut ceux qui sont nés en Suisse. Et ça inclut aussi ceux qui sont arrivés petits. Et quand je regardais, si on prend les deux ensemble, on disait 33% de la population suisse. C'est quand même assez important. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui ne sont pas 100% suisses? Ouais, ça fait joliment le pourcentage, le tiers. Hein. Alors, mon enfance, je vais vous parler de ma vie de secunda. Alors, quand j'étais petite, ben, c'est vrai que souvent, j'allais en Italie chez mes grands-parents. J'y passais apparemment plusieurs mois pendant que mes parents travaillaient. J'ai juste souvenir du manque, de l'attente. On n'avait pas les natels, donc on ne pouvait pas leur parler tous les jours. On ne savait pas quand est-ce qu'ils reviendraient ou pas. Mais au moment de commencer l'école, on m'a fait revenir, que je suis restée ici. Alors, en fait, on habitait un quartier qui était super sympa. C'était plein d'enfants immigrés. C'était le quartier des immigrés, donc on avait tous un peu le même âge, on était une ribambelle et on faisait des jeux à n'en plus finir, parce qu'on était tout le temps dehors en fait. Et puis il y avait 4 ou 5 de mon papa qui travaillaient dans la même entreprise, et il y avait un bus qui les amenait tous. Alors quand ils arrivaient à midi ou bien le soir, il y avait une ribambelle d'enfants qui allait les accueillir. Et c'était mon quartier, j'avais mes repères, mes amis, c'est là que j'ai commencé l'école, et à 5 ans. J'ai commencé l'école et j'adorais ça, l'école. Ah, mais ce que j'aimais l'école, c'était juste... J'adorais le chemin de l'école, j'adorais mes camarades d'école, j'aimais mes maîtresses, j'aimais apprendre, j'aimais tout ce qui était l'école. En fait, j'étais une petite fille heureuse. Mais en commençant l'école, il y a quand même quelque chose de bizarre qui est arrivé. J'appelais ça une bizarrerie identitaire. Parce qu'à l'école, la maîtresse, elle demandait au début, parce que évidemment, on n'avait pas les ordinateurs, tout ça, on devait remplir un questionnaire, nom, prénom, quelle nationalité j'étais. Alors, moi, j'écoutais bien les autres, c'était tous mes petits copains des classes, et moi, je répondais « Suisse ». Puis la maîtresse, je la vois encore, elle prenait les feuilles, elle fouillait, tout, puis disait « Mais Milvia, t'es née où ? En Suisse ? Puis tes parents, ils sont nés où ? En Italie ? Mais alors, Milvia, t'es italienne ? Ben non, je suis suisse puisque je suis née en Suisse. Et ça répétait chaque année. Finalement, quand on me posait la question, je disais, je suis italienne, comme ça faisait plaisir à la maîtresse, mais je suis née en Suisse. Donc je n'ai jamais dit italienne tout seul. Hein. Mais franchement, je dois dire que je ne me suis jamais sentie autre chose que suisse. Je n'ai pas souvenir d'avoir mélangé les deux langues, d'avoir bafouillé entre les deux langues. Et en plus, j'ai un petit truc, c'est que j'ai le R français. Donc, j'arrive pas à dire le R italien. Pareil qu'on appelle ça le R chic maintenant. Ouais. Mais à l'époque, on ne trouvait pas ça très chic. Alors, voilà. Alors, quand j'étais en Italie, j'étais la petite Suisse. Et quand je nais ici, j'étais italienne. Alors, ça, tu n'as plus rien à y comprendre. Et finalement, je suis rentrée dans ma suissitude de bon cœur. Mes années de primaire sont passées sans problème. Donc j'étais bonne à l'école, je travaillais bien, j'étais juste un peu vive, mais on disait que on avait dit à ma maman, c'est parce que je comprenais très vite. Du coup, je dérangeais, donc on me mettait au fond, toute seule. Mais ça ne m'a jamais causé de problème, hein. Je trouvais ça super. Puis j'avais un tempérament de leader, j'aimais beaucoup rire et faire rire, et je serais maîtresse d'école. C'était décidé. Un petit coup. Voilà. Adolescence, 2 années noires, 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 2 petites années dans une vie. Hein. Mon adolescence, elle est arrivée avec elle beaucoup de choses. En à peine 2 ans, j'ai réalisé que ça avait été un tsunami. Tout d'abord, on rentrait au cycle, qui était l'école secondaire à l'époque. Hein. C'était sur examen, donc on rentrait au cycle. Ce qui faisait que souvent, les classes qu'on avait l'habitude d'aller, on avait la même classe, c'est pas comme ici qui mélangeait chaque année. On avait les mêmes copines tout le temps. Ça volait en éclats. Et surtout, on se retrouvait à l'école mixte. Pour la première fois depuis l'école enfantine, je me retrouvais avec des garçons. Ça, je me réjouissais tellement du cycle. Je me voyais grande, indépendante. Et, je me souviens, mes filles, ça fait la même chose quand elles sont rentrées au cycle. Hein. Elles avaient l'impression d'être grandes tout d'un coup. Mais quelque chose avait changé dans l'air. L'ambiance, c'était plus la même. Autour de nous, c'était devenu bizarre. C'était devenu hostile, plus pareil. On parlait d'initiative, de renvoi des étrangers. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, on était au plus noir des années Schwarzenbach. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que les jeunes, vous n'en avez jamais entendu parler. Les autres, on les a vite oubliés. Il y a eu deux initiatives, en 70 et 74, qui visaient à limiter le nombre d'étrangers à 10% de la population suisse. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça, on voulait que la population saisonnière. On ne voulait plus la population établie. Et nous, on était établis depuis longtemps. Et ces initiatives, elles ont créé une vague de xénophobie violente. Ça a été sans précédent et il y en a beaucoup qui sont repartis, surtout les Espagnols. Beaucoup sont partis, les Italiens un petit peu moins, hein, mais beaucoup d'Espagnols sont repartis. Je me souviens que mon papa est arrivé un jour du travail, il était tout choqué. Mon papa, c'était vraiment quelqu'un de gentil, c'était un travailleur, c'était vraiment... ouais, c'est pas le gars à faire des histoires, il n'allait pas dans les cafés, il ne sortait pas. Et il ne comprenait rien du tout, parce que ses amis de la veille, ils étaient devenus menaçants. Ils étaient devenus grossiers. Il est arrivé, il m'a dit, mais je ne comprends pas, machin, c'était mon copain hier, il me traite de magut. Puis, c'est maman, ça veut dire quoi, magut? Je lui ai dit, bah, c'est magut. Magut, c'était comme ça qu'on nous appelait. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Hein. Mangeur de spaghettis. Nous, on n'était pas très branchés spaghettis chez nous, parce qu'on est du Nord, c'était plutôt la polinte. De piaf. C'est tous des termes que, franchement, voilà, dans certains cafés, c'était même affiché interdit aux chiens et aux Italiens. Si, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai posé la question à mes parents, parce que je ne me sentais pas du tout concernée. Moi, j'étais suisse. Hein. Mais quand ma maman m'a répondu, je vois très bien, elle m'a dit, mais Emilia, on est concernée comme les autres, et même encore plus, puisque c'est les établis qui doivent repartir. Mais qu'est-ce que j'allais faire en Italie? Je parlais la langue, oui, mais je n'avais pas d'amis. Je n'écrivais pas. J'avais été à l'école italienne, mais bon, ça ne m'avait pas trop plu. J'aurais perdu des années. Et moi qui voulais devenir maîtresse d'école, comment j'allais faire en Italie? Et puis, c'était l'entrée du cycle. Et c'est vraiment à ce moment-là que je suis devenue la cochonne italienne. Voilà, ce qu'on m'a dit en plein cours. Il y avait un petit gars devant moi. Il avait l'habitude de prendre des serpents dans un sac. Et il prit des serpents. Ce qui fait que même s'il n'avait pas de serpent, il nous faisait croire qu'il en avait, parce qu'on ne bougeait pas une oreille derrière. Hein. Et il me traitait de cochonne d'italienne. Puis un jour, j'ai pris ma règle et puis je lui ai envoyé la règle. Je crois qu'il l'a prise dans le petit juif. Il en a fait tout un cinéma, glissé sous le banc, et c'est moi qui ai été punie. C'était un peu comme ça. Une amie m'a dit que cette espèce de racisme, quoi, c'était même les profs. Moi, je n'ai pas connu par les profs. Les profs ont toujours été nickel, mais même, elle me disait que même chez les profs, ça se passait comme ça. Alors, il y a eu, dans la cour, on me traitait tu pues, quand on passe à côté, piaf, cochonne d'italienne, quand on passait dans la cour d'école. Mais celle qui m'a plus marquée, c'est celle pendant la classe, parce que le prof n'avait pas réagi, quoi. Alors, quand venait la récréation dans la cour d'école, j'ai commencé à faire profil bas, il ne fallait pas se faire remarquer. J'avais peur, je me sentais traquée, je me cachais derrière les amis. S'il y avait un groupe, je m'en mitouflais, je me mettais dedans, bien cachée, pour pas qu'on me voie. Je cherchais à passer inaperçue, et je voulais pas, parce que je ne voulais pas être attaquée. Et puis, en arrivant au cycle, moi, on parlait toujours de la boum, moi, je me réjouissais de ma première boum, qu'on m'invite à ma première boum. J'attends toujours ma première boum, j'ai jamais été invitée. Moi, il y a une copine qui m'a dit l'autre soir, on pourra te la faire si tu veux. Mais j'étais pas invitée. Il y avait quelque chose, il y avait des fêtes, j'étais pas invitée. On n'était pas invitée, voilà. Ma meilleure amie, je passais tout mon temps avec elle. Elle est invitée, mais moi pas. Je faisais partie des pupillettes. Hein, qui a fait partie des pupillettes? Je pense que tout le monde a fait partie des pupillettes à l'époque. Quand on venait plus que pupillettes, je ne sais plus quoi, on devenait monitrice. Quand ça a été mon tour, ça sautait mon tour. Donc je n'ai jamais été monitrice non plus, je me réjouissais. Et puis, voilà, que sont venus les examens pour rentrer à l'école normale, mon rêve depuis toujours. Mais je me souviens du moment où ma meilleure amie aussi, elle passait les examens à l'école normale. On s'en faisait tout un cinéma, c'était tout prévu. Il n'y a rien qui faisait penser que j'aurais loupé parce que j'étais bonne en classe. Alors, elle m'a annoncé qu'elle avait réussi. On savait qu'elle avait les résultats plus tôt parce que son papa, il avait des pistons à l'école normale. Alors, elle m'a annoncé qu'elle avait réussi, puis moi pas. On était dans les escaliers de l'école. J'ai cru que je tombais d'un étage, là. Il y avait le directeur de nos écoles primaires qui m'aimait bien aussi, qui savait que je travaillais bien. Il avait fait des pieds et des mains pour me pistonner. Ça n'a pas marché. Je ne serai pas maîtresse. Voilà, ça a été comme de descendre dans un gouffre. C'est toujours au même moment que mes parents, alors je vous dirai après comment ça se passait pour les parents, ils ont décidé de construire, mais à quelques kilomètres de là. Alors, monter, Murat, c'est 4 kilomètres. Hein. Maintenant, vous ne voyez plus la différence, tout est habité, mais à l'époque, c'était un gouffre. C'était tout noir, il fallait un moyen de locomotion pour y aller. Ils ont décidé de déménager. Donc moi, j'ai été coupée de mes amis d'enfance, tout mon petit groupe d'immigrés, qu'on commence à faire un petit peu bloc. J'arrivais dans un village où je ne connaissais personne. Ma meilleure amie, elle partait à Sion. Et moi, j'allais entrer à l'école de commerce, finalement. Alors, j'allais le plus possible en vélo moteur. Je m'étais payé un ciao pendant les vacances. Bien sûr, on ne peut pas avoir autre chose, hein. Et quand il faisait spécialement froid, je devais prendre le bus. Mais alors là, c'était comme de rentrer dans la fosse au lion. Imaginez-vous un bus rempli d'adolescents et vous rentrez là-dedans. Donc vous ne connaissez personne. C'est l'âge un petit peu problématique. Je savais que je me faisais agresser verbalement. Donc c'était un peu compliqué. Toujours dans ces deux heures-là, j'ai subi un abus sur lequel j'ai mis longtemps à mettre un nom. Voilà. Il y avait deux façons d'envisager la chose pendant ces années Schwarzenbach. Hein. C'était soit de se regrouper en famille, Circolo Italiano, etc., les amis, de se solidariser. Mais nous, il me semble qu'on a juste fait le contraire. On s'est isolés pour se cacher, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je me suis vraiment sentie comme ça. Alors, j'ai commencé l'école de com. Les premiers mois à l'école de com, ils ont été difficiles. Parce que, en fait, j'avais pas de groupe. Là, ça a éclaté de nouveau tout ce qu'on avait. C'est une amie qui m'a dit, c'est drôle, elle m'a dit, Milvia, je me souviens comme tu étais toute seule toujours sur les escaliers. Et je passais d'un groupe à l'autre, j'allais vers l'une, elle discutait. Bon, après, elle discutait de trucs et de gens que c'était pas mon groupe, quoi, c'était pas mon milieu. Je passais à un autre groupe. Et rebelote la même chose, je passais là, là finalement je m'assieds sur les escaliers, je me prends mon petit pain, mon chocolat, là, et puis j'attends l'heure de la rentrée. Voilà, et en fait, j'étais comme tout adolescent, les adolescents ils ont besoin de se grouper pour trouver une identité, et puis pour se faire un milieu, moi j'avais pas tout ça. En fait, tout ça, il y a eu des conséquences que j'ai vu longtemps après. C'est comme la chanson, je me suis réveillée un matin et puis, en fait, je me sentais plus suisse. La Suisse ne voulait plus de moi, je ne me sentais pas italienne. On était une période de transition. Et je ne me suis pas rendu compte que tout d'un coup, j'ai développé un espèce de sentiment d'illégitimité. J'étais illégitime partout où j'étais. En Suisse, j'étais illégitime. En Italie, j'étais illégitime. Et ça impliquait un petit peu tous les domaines, hein. Alors, sentiment d'illégitimité, en fait, c'est quelque chose qui existe, je ne savais pas. C'est quelque chose qui pousse à se dévaloriser, ça fait douter de ses compétences, ça empêche de s'attribuer des succès. On sent un imposteur partout où on est, peu importe la place qu'on ait. Hein. Alors, mais peu à peu quand même, je me suis refaite un petit groupe d'amis à l'école de commerce. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai retrouvé, il y a peut-être 2 ans, quand est-ce qu'on a commencé l'aquabike? Il y a 2 ans, hein? Ouais, 2 ou 3 ans. Une amie d'école, et c'est elle qui m'a dit, mais t'es à côté de moi tout de suite en arrivant à l'école de commerce. Et je ne me rappelais pas, mais j'ai un bon souvenir de cette fille que j'ai perdue de vue, puis que j'ai retrouvée il y a 2 ans. Il y a plein de petites choses qui se sont faites comme ça, dernièrement. Après, je fais partie d'une équipe de volley, ça m'a beaucoup aidé à garder la tête hors de l'eau. Ça, c'était mon groupe d'appartenance, c'est ça, à ça que je m'identifiais. Alors, je crois que ça c'est le 3. Ma famille. Alors, à 17 ans, j'ai fait la connaissance de celui qui allait devenir mon mari 5 ans plus tard. Et c'est vrai que je dois dire que je me suis accrochée à lui comme une bouée de sauvetage. Il était suisse, valaisan pur sang, il savait où il allait, c'est un peu qu'il m'aime me suive, et moi j'ai suivi. Mais là, il y a ma maman. Je pense que ça partait d'une peur qu'elle avait. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'il était trop bien pour moi et que je ne le marierais pas. C'était encore ce sentiment d'illégitimité, mais c'était le sien projeté sur moi. Elle se trompait. Après 6 ans passés à Genève, on est rentré, on a eu nos 3 enfants. Et bien sûr, ça n'a pas été simple parce que j'avais l'air heureuse, épanouie, j'avais l'air d'avoir pas de problème. Quelqu'un m'a dit une fois, toi, tu es parfaite. Parce qu'elle avait vu dedans. Dedans, c'est un champ de ruines. Un champ de ruines et je ne savais pas. Dans notre couple, ça commence à venir très difficile. On a frisé la rupture. Et cette illégitimité, ce sentiment-là, s'est infiltré partout. Même dans mon couple. Il y a des trucs dans mon couple, je n'osais pas demander, je n'osais pas être légitime dans mon couple. Je ne me donnais pas de droits. On m'a dit, voilà, une rencontre qui change tout. Alors, en 2003, alors que c'est ma vie de famille qui est en pleine tempête, mon couple n'en était plus un, j'ai cherché un sens à ma vie parce que j'avais l'impression d'aller droit dans un mur. Je me demandais pourquoi j'étais sur Terre, si c'était pour vivre bêtement et mourir. Ça n'avait pas de sens. J'essayais plein de choses, plein de théories, plein de philosophies, qui m'ont apporté que des réponses incomplètes ou des fois, mais carrément abracadabrantes. Hein. Mais aucune n'a apporté de changement durable dans mon cœur. Et puis, on m'a parlé de Dieu, de Jésus qui a donné sa vie pour moi par amour. On m'a parlé de Dieu qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair et moi, je voulais vraiment quelque chose qui change dans mon cœur. Alors, je n'ai pas fait long à l'inviter à venir visiter mon cœur et lui a donné les rênes de ma vie. Je l'ai laissé faire, mais si je m'imaginais ce qu'il allait y faire, et surtout ce qu'il allait y trouver, alors méfiez-vous hein, si vous n'avez encore pas donné votre vie à Jésus, parce qu'il peut faire des gros changements. Ça a été le temps de la restauration. Alors, il a enlevé ma colère, c'est la première chose qu'il a enlevée. Je n'étais pas quelqu'un de colérique, mais j'étais pleine de colère. Et ça, il a enlevé. Alors, pour arranger ma relation de couple, c'était déjà un bon départ. La solitude a disparu. J'ai appris la puissance du pardon et grâce à ça, mon couple a pu tenir la route, être relevé. Et finalement, il est complètement restauré. J'ai reçu une appartenance. J'appartiens au peuple de Dieu, peu importe mon origine, c'est ce qui m'a marqué. Dans Lévitique 26, verset 12, c'est marqué « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Moi, ça m'a beaucoup marqué, ça, de dire « Mais je fais partie du peuple de Dieu. » Mais surtout, ce qu'il a fait, il a restauré mon identité. Et ça, ça a pris du temps. Alors, dans Ésaïe 43.1, c'est marqué « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ne crains rien, je te rachète. » Moi j'étais pleine de peur. J'avais même tous les jours peur à midi de ne pas arriver à faire les repas. Au bout de 20 ans, je me suis dit, mais Milvia, ça fait combien de temps que tu fais des repas, 20 ans? Et combien de fois on n'a pas mangé à midi? Jamais. Je me suis dit que c'était une bonne raison d'être assurée. Mon nom, moi je n'aimais pas mon nom, Milvia. Différent, peut-être trop italien. Moi je voulais m'appeler Nicole, sérieux, hein? Oui, oui, parce qu'en classe il y en avait 5. Donc du coup ça faisait très comme tout le monde, et on m'appelait Milvia. Mais quand j'ai su que Dieu m'appelle par mon nom, puis qu'il n'y en a qu'un de Milvia, alors ça, ça a changé la donne. Hein. J'ai commencé à bien l'aimer, mon prénom. La joie est venue. La joie, avant, j'étais joyeuse. J'étais quelque chose joyeuse, mais je me forçais à être joyeuse pour avoir une place dans un groupe. Maintenant, je suis joyeuse parce que c'est comme ça. Mon cœur est joyeux. Et puis, en 2013, j'ai dû arrêter de donner des cours de fitness. C'est mon dos qui a lâché. Le sport, c'est ce qui m'avait permis de garder la tête hors de l'eau. Et je m'étais créé une image. En fait, j'avais une salle de gym qui s'appelait Milvia's Gym. Une fois, une dame, elle m'a dit, « Ah, vous êtes Milvia's Gym ?» Oui, Milvia tout court, ça suffirait, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était mon identité. C'est ce qui canalisait mes émotions et c'est ce qui me valorisait. Et en fait, quand le dos a lâché, ça faisait un moment que je disais, bah, « Voilà, Seigneur, tout pour toi. » Tout pour toi. Et puis je rajoutais. Puis un jour, il m'a dit, mais comment tu veux que je te donne quelque chose? Tu remplis. Et bien, quand le dos a lâché, qu'il y a eu de la place, il y a eu largement assez de place. Mais ça a été très, très dur d'arrêter. Mais vraiment, ça a été comme un arrachement, un changement de cap, un changement d'identité. Et durant cet été-là, je partais pour 5 semaines de vacances. J'ai commencé à écrire à mes copines des mails, puis je disais, est-ce que vous êtes d'accord que je vous partage un peu ce que Dieu me met à cœur? Puis je m'imaginais des grands trucs, des grandes prophéties, etc. Puis en fait, ce qui est sorti, c'est juste ma vie avec Dieu. Et ça a continué, ça fait 6 ans maintenant, c'est devenu un blog. Vous avez sur la table là-bas des petits carnets, je les ai reliés en petites nouvelles, et puis ça me permet d'encourager les gens dans leur foi au quotidien, mais... Ce que je ne savais pas que je savais écrire, mais en fait, je ne me rappelais pas que je savais écrire. Parce que, toute petite, quand j'avais commencé l'école, que j'avais commencé à écrire, la maîtresse m'avait donné un petit cahier que je faisais des petits poèmes et que j'écrivais. Je crois que maman doit toujours l'avoir. Et puis, je peignais. Mais la peinture est revenue sous une autre forme. Là aussi, vous aurez des petits tableaux que j'ai faits. De plus en plus créatifs, plus personnels. Et là aussi, je me suis rappelée qu'en fait, j'avais gagné un concours de dessin à l'école. Et c'est incroyable, tous ces trucs que j'avais oubliés, Dieu m'a redonné. Il avait mis des dons en moi, des qualités, des capacités que j'avais oubliées, m'a tout restauré. Et là, je me découvre et je vais de surprise en surprise. Alors. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Me reconnecter avec mes racines. Quand je lisais ce verset, je m'imaginais plein de choses. J'allais connaître des secrets de famille, des mensonges cachés ou je ne sais pas quoi. Quel genre de vérité. Mais ce qu'il a signifié pour moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que ce qu'il a signifié pour moi, ça a été la partie la plus dure de ma vie, alors que je pensais que c'était fini, qu'on avait fait un gros nettoyage avec Dieu. Dieu est parfait, saint, et il veut qu'on soit de plus en plus semblable à lui. Alors il ne va rien laisser d'inachevé. Et si on lui permet, il ira chercher au plus profond de nous-mêmes pour nous libérer. Jérémie 33, 3, c'est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors quelle était cette vérité cachée qui doit me rendre libre? En fait, en famille, on n'a jamais reparlé, ou entre amis de ces années Schwarzenbach, même entre nous, qui est les enfants de cette époque-là, on n'en a jamais parlé. Et c'est maintenant, parce que moi, c'est la première fois que j'ai dû écrire mon témoignage, c'est à mon baptême, je crois. Et puis, je devais me dire, mais qu'est-ce qui m'a marqué à l'adolescence? Et ça m'est venu année Schwarzenbach, je me suis rappelée de ce truc. Et franchement, j'ai cru que je m'étais inventé quelque chose. Donc j'étais chercher sur Internet, si par hasard, il y en avait d'autres, et je suis tombée sur Massimo Lorenzi, notre chef des sports à la télé, qui a vécu les mêmes choses. Et les parents n'en ont jamais parlé, mais pour eux, ce n'était pas pareil, parce qu'eux, ils ont toujours envisagé le départ. Donc, on s'est rendu compte que pour eux, de partir, c'est un moindre mal, puisqu'ils l'envisageaient, et puis émotionnellement, ils le géraient autrement que nous. Nous, on était petits encore. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi pour être sûre que je n'invente pas quelque chose, tu te rappelles ces années-là? Oui, je m'en rappelle. Quel souvenir t'en as? Là, il y a 2 jours, on m'a dit que c'était la terreur. Quelqu'un m'a dit que c'était des années de terreur. Un autre m'a dit que c'était l'horreur. Un autre s'est dit que c'était dur. Un autre m'a dit on a morflé. Et c'est tout ce qu'on dit. C'est tout. Et nous, on reste là avec ce petit paquet. Mais en fait, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des choses récurrentes dans ma vie. Je voyais bien que j'avais des projets, des désirs, mais pour les réaliser, franchement, il me fallait toujours l'approbation de Pierre-Paul Jacques. Il me fallait une validation que je pouvais attendre longtemps, un feu vert. Et puis tout ce que je faisais me semblait de l'amateurisme. On avait beau me dire, mais oui, tu écris bien, mais oui, tu peins bien, mais oui, tu fais bien, je n'y croyais pas. Je faisais, mais elles sont super sympas, les copines m'encourageaient comme ça. Je ne le croyais vraiment pas. Hein. Et puis, j'ai aussi réalisé que régulièrement, je me faisais voler mes idées, ma place, ma valeur, et finalement, je trouvais ça plus ou moins normal. Le mot injustice, je ne le connaissais pas. Je ne disais jamais que c'était injuste. J'ai une amie, elle dit toujours « c'est pas juste ». Je trouvais que ça faisait enfantin, toujours « c'est pas juste ». Ça, je ne le disais pas. En fait, je ne le disais pas puisque j'étais illégitime. Quand on est illégitime, on n'a pas tous les droits que les autres. Donc, c'était normal. Même dans mon couple, je ne me donnais pas de droits. Je culpabilisais quand je devais dire « je veux ci, ça ». J'étais « madame, c'est égal ». Tu veux faire quoi, ça ou ça ? C'est égal, c'est égal. Ça a énervé tout le monde. En fait, je pense que je suis restée. Hein. J'étais facile à vivre parce que je ne revendiquais rien. Je ne m'en donnais pas le droit et je me laissais tout dire. Alors, juste pour vous dire à quel point ça pouvait aller, je travaillais, à l'époque, je travaillais à Genève dans un bureau Club Med. Et on avait un nouveau directeur. Il a convoqué tout le monde. C'était veille de fête et il fallait mettre le répondeur automatique. C'est toujours moi qui le mettais. Et on est monté à l'étage, donc il nous a appelé tout le monde et il a commencé à féliciter Milvia, mais je te félicite, merci, tu fais du bon travail, etc. Alors je te laisse mettre ce répondeur automatique comme d'habitude, comme tu fais tellement bien et patati patata, sauf qu'il regardait une autre. Il ne regardait pas moi. Mais l'autre, elle n'a rien dit, ce chameau. Et moi, la nouille, j'ai rien dit. J'ai rien dit, donc elle s'est pris tous les compliments, on est redescendu, et puis franchement, c'était pas la plus compétente. Hein. Arrivée en bas, elle m'a dit toute penaude, elle a dit, alors, Milvia, ouais, je te laisse faire le dictaphone, parce que moi, je sais pas comment on fait. Et j'ai fait mon dictaphone, mais c'était mais tellement, mais voilà, c'est le genre de truc. Un autre truc... Ma prof de fitness organisait chaque année le concours instructeur fitness de l'année. Elle me contacte, est-ce que tu ne voudrais pas participer? Tu nous envoies une cassette, etc. Patati patata. Ok, j'envoie mon cours et tout. Et puis, à ma plus grande surprise, j'étais sélectionnée. Donc, on me sélectionne, on est 3-4 finalistes, il y a des experts qui viennent d'autres pays, il y avait d'Australie, d'Italie, et puis je ne sais plus trop d'où. On fait l'annonce, tout le monde me disait c'est toi, on fait l'annonce, c'est pas moi. Ah bon? Et les uns après les autres, les profs sont venus me dire ça devait être toi. Et encore une fois, j'ai pas appelé ça de l'injustice. Bah c'est normal, bah voilà, il y en a qui sont mieux que moi, c'était toujours comme ça. Et en fait, ça me crée une réaction émotionnelle, hein, parce que je voyais bien cette injustice, mais je ne savais pas quoi faire avec. Ça me reboulait, ça me faisait de la colère, et je me disais, Milvia, c'est parce que t'es jalouse. T'es jalouse, mais arrête d'être jalouse. Alors je priais, Seigneur, je te dépose cette jalousie, je te mets, ça passait jamais, ça passait jamais. Et puis un beau jour, alors que j'étais là, je disais, mais Seigneur, c'est quoi cette foutue jalousie tout le temps? Parce que je te dis, je te la pose et tout, puis elle est toujours là. Puis je savais que je n'étais pas quelqu'un de spécialement jaloux, parce que je n'enviais pas ce qu'avait l'autre. Ce que j'avais l'habitude de dire, ça m'énervait quand on me piquait quelque chose qui est à moi. Mais ça, ce n'est pas de la jalousie, si on prend quelque chose qui est à toi, c'est quand même légitime ou bien. Et c'est là que la bombe est arrivée. Parce que c'est vraiment, je l'entends tellement fort, pas avec mes oreilles, vous savez, avec le cœur. Hein. J'entends Dieu qui me dit, mais arrête d'appeler jalousie ce qui est de l'injustice. Utilise les mots justes, c'est de l'injustice. Tant que tu tolères l'injustice, la vérité ne peut pas régner. Et l'injustice ne laisse pas de place à ma justice. Moi, ça m'a... Vous savez, c'est comme si on avait pris un lève-pied, puis qu'il y avait ce rocher qu'on avait soulevé, puis dessous, il y a un nid de fourmis. Puis tout à coup, ça part dans tous les sens. C'est parti. J'ai commencé à avoir des soubresauts dedans moi. C'était pas extérieur, c'était à l'intérieur. Il y a un truc qui montait. Je me disais, mais c'est quoi ? Puis ça commençait à sortir, mais il n'y avait pas de son. Hein. Et j'entends Dieu qui me dit, mais Milvia, tu vomis l'injustice. C'était un truc, mais horrible. Ça a duré des jours. Au début, j'ai vomi et je continue à vomir. Elle était là, cette vérité qui devait me libérer. De mettre les mots justes sur les choses. Quand c'est de l'injustice, d'appeler de l'injustice. Ok, l'injustice, elle attire la jalousie. Mais au départ, c'est de l'injustice. Et depuis que je dis comme mon ami, c'est pas juste, la jalousie, elle n'a plus de place. Parce que c'est pas juste. Maintenant, l'injustice, on aura tout le temps. On est dans un monde injuste. Il y en aura tout le temps. Il y a de celles que nous, on peut faire quelque chose et de celles qu'on ne peut pas. Et bah tant pis. Mais c'est juste de mettre des mots dessus, c'est de l'injustice. Voilà, c'est tout. Les mots doivent être justes. Parce que si je veux déposer quelque chose devant Dieu, je dois lui déposer la chose juste. Hein? En fait, et là j'ai vu, quand on a soulevé le caillou, j'ai vu tout ce qu'il y avait dessous. Tout ce sentiment d'illégitimité m'empêchait de dire que c'était de l'injustice. Et elle, ça l'arrangeait bien de régner. Ça l'arrangeait bien de rester là. En fait, elle avait tout le terrain pour elle. Et puis c'était stéro pour la jalousie. Mais à la source, il y a l'injustice. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai vu. Et en fait, j'ai cherché sur Internet aussi. J'aime bien que ce ne soit pas juste mon ressenti. Hein, que quand même voir s'il y a quand même d'autres qui ont vécu ça. Ou bien si on peut le... Voilà. Et en fait, ce sentiment d'illégitimité, il nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée. Et là, c'est comme si Dieu avait enlevé ce rocher de ma vie, et puis est venu ce temps. Voilà. Ça, c'est une aquarelle que j'ai faite à ce moment-là. C'est exactement ça. Il a brisé les portes de bronze et il a fait sauter les verrous de fer. Et c'est venu ce temps, le temps du pardon. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Fallait pardonner. Alors c'est vrai que j'avais réalisé ça il y a longtemps, que j'avais pardonné à la Suisse et aux individus concernés, mais j'ai repris ce pardon, je l'ai refait. J'ai pardonné le rejet, j'ai pardonné l'humiliation. J'ai pardonné le vol de ce qui était mon identité, ce que je devais être et qui n'a jamais été. Et franchement, si je peux en parler ce soir, c'est parce que ça a été pardonné. Il y a des personnes aussi, les personnes qui m'ont suivie pendant cette démarche, au nom de la Suisse, elles m'ont demandé pardon. J'ai trouvé beau parce que je me disais, voilà, le pardon, ok, moi j'ai pardonné, mais pour être réconciliée, il faudrait qu'il y ait le pardon dans l'autre sens. Et comment ça va se faire ? Mais Dieu avait tout prévu, il avait prévu des personnes qui ont eu ça tellement à cœur, mais tellement à cœur, qu'on aurait dit que c'était elles qui m'avaient fait du mal. Elles ont pleuré, elles m'ont demandé pardon de tout leur cœur. J'ai trouvé ça beau. Et puis, dans la prière, j'ai vu Dieu qui mettait un tampon sur mon passeport légitime. J'ai vu un autre tampon, ordre de mission. Et je me suis demandé quelle était cette mission, hein. Et c'est vrai que de pardonner à ce qui a été fait, surtout à toute cette génération d'Italiens, et pour moi, ça a du sens d'être ici ce soir au bout du Valais, parce qu'en fait, ils arrivaient par Saint-Plon. Saint-Bernard, il n'était pas toujours ouvert. Je me souviens que nous, on devait regarder le temps pour repartir en Italie, soit c'était Saint-Plon, soit Saint-Bernard. Mais Saint-Bernard, c'était plus souvent le Saint-Plon au début. Et je trouvais que ça avait du sens aussi qu'on prie en italien avant, parce que ça m'a reconnecté avec mes racines, avec la première langue dans laquelle je priais. Et j'avais mis un dernier chapitre. Et maintenant ? Alors, j'ai réalisé que j'allais jamais monter. J'habite à 4 km, j'allais plus facilement à Aigle, Vevey, Montreux, que ma ville, la ville où j'ai grandi, j'y allais pas souvent. J'ai réalisé qu'on a une maison de vacances en France et je me sentais plus chez moi là-bas. Je n'avais pas ce genre de problème qu'ici. Là-bas, j'allais facilement boire un café au village. Voilà. Tandis que chez moi, je ne me sentais pas chez moi. J'ai réalisé que j'avais pratiquement plus d'amis d'enfance, d'amis d'école. Il y avait comme un gros vide entre mon enfance et ma vie d'aujourd'hui. Mais vous savez tous que Dieu est bon, hein? Il a commencé à me ramener des amis, les unes après les autres. Et c'est elles qui m'ont ramené des souvenirs aussi. Et je me disais, elles sont un petit peu ma mémoire, parce que moi j'avais caché tout ça. Et elles me ramènent des choses. Je suis retournée sur les lieux où j'ai grandi. Ils en ont fait un très beau parc, là, les Mangettes. En fait, c'était là que j'allais à vélo, quand j'étais petite. Et lors d'une visite guidée de la ville de Montet, j'ai réalisé que je faisais partie de l'histoire de cette ville. J'étais la mémoire, j'avais une mémoire de cette ville, même si c'est que 2 ans bizarres, un peu noirs, mais je faisais partie de l'histoire de cette ville. Donc, j'étais pleinement là. Et j'avais vraiment l'impression que, comme Jacob, ses puits avaient été volés, c'était le temps de mon puits maintenant. Il y a mon puits qui revenait. Et il y a... Voilà. À la conquête de la terre promise. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve à l'est, jusqu'à la Méditerranée à l'ouest, à travers le pays des Hittites. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Sois forte et courageuse, j'aimerais dire. Oui, c'est toi qui donneras en partage ce peuple, à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. C'est la dernière phrase qui me touche beaucoup. Ce peuple que j'ai promis à ses ancêtres. Et je pense qu'on a beaucoup, mes parents, on est toute une génération qui avons des parents encore là, des ancêtres, hein. Il y a un autre passage que je vous dirai après. Mais il y a quelque chose que je me disais, ok, ça a du sens d'être là, de vous dire tout ça ce soir, de dire que c'est pardonné, de dire voilà. Mais il me semble que le homme est maintenant, il reste en suspens. Et je disais, mais Seigneur, ok, moi j'ai eu ça. Mais on est quand même beaucoup qui avons souffert d'une façon ou d'une autre d'être étrangers dans un pays. Et je me disais, Seigneur, moi j'ai eu la chance d'avoir le pardon de ce pays et les autres. Alors, je crois que Dieu m'a légitimée. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous donne le pouvoir de délier ce qui est sur cette terre pour que ce soit délié plus haut, dans les cieux. Tout à coup, j'ai réalisé que j'étais double nationale. J'ai 2 passeports. J'ai le passeport italien et j'ai le passeport suisse. Donc, avec mon passeport suisse, j'ai ce pouvoir aussi de dire à tous ceux qui ont été blessés au nom de la Suisse, je vous demande pardon. Et c'est ce que je voulais faire pour vous ce soir. Tous ceux qui ont été blessés ici, qui ont vécu des choses qui ne sont pas très jolies, j'aimerais juste au nom de la Suisse vous demander pardon. Et vous délier pour que vous puissiez entrer dans votre destinée pleinement. Et si vous voulez passer un petit temps en prière après, c'est volontiers. Je vous laisse un dernier passage de la Bible. Ça m'a toujours beaucoup parlé, mais ça prend tellement de sens maintenant. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. C'est même pas là, non. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux, précieuse et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place et des êtres humains en échange de toi. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, que Dieu, il nous a créés il y a longtemps. Ce n'est pas un Dieu qui prend les petites graines, hop, il lance en l'air, puis regarde où ça tombe. Oh, ben tiens, la petite Milvia, elle est tombée ensuite, mais zut, pendant les années Schwarzenbach. Pas de chance, hein. Non, je crois que Dieu, il sait où on est. Il sait à quel endroit on est, on sait pourquoi. Samuel, il sait pourquoi tu repars en Italie. Ouais. Ouais, je sais. Dieu sait tout. Et il est aux commandes de tout. Alors, si on est là, si on sait utiliser ce qui est notre vécu, en faire un témoignage, ça va être une force pour beaucoup. Et ça va être notre message là où on est. Dieu dit aussi que toute terre que tu foules, je te la donne. C'est un verset qui m'a couru après ces derniers temps. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve. Ça fait des années que je me trouve au bord du fleuve. Ça fait des années qu'il me dit que je suis là. Avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne en tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire, ben c'est le même que celui-là? Non. Exactement, c'est le dernier, voilà. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra de l'Euphrate à l'est jusqu'à la Méditerranée à l'ouest. Et moi, mes pieds, où mes pieds vont aller, c'est là que je vais apporter la joie du Seigneur. Merci. Ah, ce soir, ils sont entiers. Mes deux pieds. Alors, je vous ai partagé des photos. Sauf la dernière, ça c'est chez moi, c'est le petit étang que je vous dis où j'allais jouer quand j'étais enfant. Mais les autres, je vous ai partagé un petit peu, je suis partie un mois au Chili, et puis je me suis dit, je ne savais pas trop quelle photo, du coup vous avez profité un petit peu des petits lamas, des geysers, etc. Voilà.